Chapitre 5. Le Seigneur s'adresse ensuite à ses disciples, bien que la foule soit présente, pour leur enseigner les principes du royaume. Tout d'abord, il montre quelles sortes de gens posséderont le royaume et jouiront de ses bénédictions. Dans les royaumes de la terre, si un homme veut réussir aujourd'hui, il doit être plein de confiance en lui-même et de dynamisme. Pour le royaume des cieux, c'est le contraire. L'Ancien Testament l'indiquait déjà. Le psaume 37, par exemple, dans son verset 11 en particulier, l'établit clairement. « Et les débonnaires posséderont le pays et feront leurs délices d'une abondance de paix. » Mais le Seigneur nous en donne ici une présentation beaucoup plus large. Il esquisse devant nos yeux un tableau moral du résidu pieux qui entrera à la fin dans le royaume. Il mentionne 8 caractères, commençant par la pauvreté en esprit et finissant par la persécution, ce qui correspond à un ordre moral. La repentance produit la pauvreté en esprit, et c'est par là que tous doivent commencer. Puis viennent le deuil et la douceur, produits par une vraie connaissance de soi et accompagnés par la soif de la justice qui se trouve en Dieu seul. Le disciple, caractérisé par cela, revêt alors les traits mêmes de Dieu: miséricorde, pureté, paix. Mais le monde ne veut ni de Dieu ni de son caractère. Aussi, la persécution met-elle un point final à la liste. La bénédiction présentée dans les versets 3 à 10 sera pleinement réalisée dans le royaume des cieux lorsqu'il sera établi sur la terre. Dans chacune de ces béatitudes, à l'exception de la dernière, les fidèles sont décrits d'une manière impersonnelle, tandis que dans les versets 11 et 12, le Seigneur s'adresse à ses disciples personnellement. Le « ce » du verset 10 se transforme en « vous » au verset 11. Et alors, parlant à ses disciples, une récompense est promise dans les cieux. Il savait que ces disciples-là étaient appelés à entrer dans un ordre de choses nouveau et céleste. Aussi, tout en réaffirmant des choses vieilles de façon plus claire, il commence à indiquer quelques-unes des choses nouvelles qui allaient survenir. Le changement dans ces deux versets est frappant et souligne le caractère du sermon sur la montagne, dans lequel le Seigneur résume son enseignement et le relie à celui de Moïse. En Jean 13 à 16, passage que nous pouvons appeler « le sermon dans la chambre haute », nous le voyons donner une portée plus étendue à son enseignement et le rapporter à la pleine lumière qu'il dispenserait quand le Saint-Esprit serait venu. Ses disciples seraient bien heureux quand ils seraient persécutés à cause de lui. Ils devaient l'admettre et s'en réjouir. Nous reculons naturellement devant la persécution, mais l'histoire prouve la véracité de ses paroles. Ceux qui s'identifient pleinement et ouvertement à Christ ont à souffrir, mais ils sont soutenus et récompensés, tandis que ceux qui cherchent à échapper à la persécution par des compromis perdent toute la récompense et sont misérables. En outre, c'est lorsque le disciple est persécuté par le monde qu'il est de façon très nette le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel préserve et la lumière éclaire. Nous ne pouvons avoir aucune saveur sur la terre si nous sommes de la terre. Nous ne pouvons rayonner dans le monde si nous sommes du monde. Or, rien ne contribue davantage à nous maintenir distincts et séparés de la terre et du monde que la persécution de la part de celui-ci, peu importe la forme qu'elle revête. Persécuté pour Christ, le disciple est du sel qui sale véritablement et il émet également un maximum de lumière. Cette parole du Seigneur ne nous révèle-t-elle pas la raison cachée d'une grande partie de notre faiblesse? Remarquez aussi que la lumière est censée luire dans la vie pratique, non pas seulement dans le domaine théologique. Les hommes ne sont pas appelés à la discerner, exprimée en parole, dans la clarté ou l'originalité de nos enseignements, mais plutôt dans nos actes et dans nos œuvres. Ils devraient, certes, entendre nos bonnes paroles, mais ils doivent avant tout voir nos bonnes œuvres, si nous voulons que notre lumière luise devant eux. Le mot employé pour « bonne » ici ne signifie pas précisément que ce sont des œuvres de bonté, mais plutôt des œuvres droites ou honnêtes. De telles actions ont leur source dans le Père, qui est dans les cieux. Elles répandent sa lumière et le glorifient. À partir du verset 17 et jusqu'à la fin du chapitre 5, nous voyons le Seigneur montrer la relation entre ce qu'il enseignait et ce qui avait été donné par Moïse. Il n'était pas venu pour annuler ou détruire ce qui avait été donné précédemment, mais pour l'accomplir. Il était la confirmation et la réalisation de tout ce qui avait été dit. Versets 18 et 19. Et aucune parole prononcée par Dieu ne devait être supprimée. De plus, comme le verset 20 l'indique, il insistait sur le fait que la justice exigée par la loi surpassait de loin tout ce que les scribes et les pharisiens superficiels de son temps pouvaient connaître ou admettre. Ils observaient une obéissance technique dans le domaine cérémoniel et ils ignoraient l'esprit véritable de la loi et le but que Dieu avait en vue. Leur justice ne conduisait pas au royaume des cieux. Par conséquent, il va leur montrer que les exigences de la loi avaient une signification d'une richesse insoupçonnée, et il ne cite pas moins de 6 points pour illustrer son thème. Il évoque le 6e et le 7e commandement, puis la loi quant au divorce en Deutéronome 24, verset 1, et quant au serment en Lévitique 19, verset 12, ensuite le principe de la rétribution, tel qu'il est énoncé en Exode 21, verset 24 et ailleurs, enfin cette justification de la haine à l'égard de ses ennemis, telle qu'on la trouve en Deutéronome 23, verset 6. Quant aux 2 commandements qu'il cite, il enseigne clairement que Dieu a égard non seulement à l'acte extérieur, mais aussi à la disposition intérieure du cœur. L'interdiction ne porte pas uniquement sur le fait de tuer ou de commettre adultère, mais sur la haine et la convoitise qui trouvaient leur expression dans l'acte. Jugé d'après ce critère, qui peut tenir devant les saintes exigences du Sinaï? La justice du scribe et du pharisien s'effondre complètement. Toutefois, dans les 2 cas, après avoir exposé ce fait, le Seigneur ajoute encore quelques enseignements. Dans les versets 23 à 26, il montre 2 choses importantes. D'abord, que Dieu n'accepte aucun don offert quand il y a un différend entre soi et son prochain. Nous ne pouvons réparer un tort fait à autrui par une profession de piété envers Dieu. On ne peut s'approcher de Dieu que lorsque la réconciliation est intervenue. Puis, secondement, si l'affaire qui cause de l'inimitié est portée devant la justice, la loi doit être appliquée indépendamment de la miséricorde. Les paroles du Seigneur ont ici sans doute une signification prophétique. Les Juifs, comme nation, allaient faire valoir leur cause contre lui, qui devenait ainsi leur partie adverse, et cela aboutirait à leur condamnation. Maintenant encore, ils n'ont pas payé le dernier cadran. Dans l'exemple suivant, il nous indique aussi qu'un sacrifice n'a de valeur que s'il permet d'échapper à la géhenne. Dans les 3e et 4e cas, versets 31 à 37, le Seigneur nous montre de nouveau que ce qui a été ordonné par Moïse n'exprimait pas toute la pensée de Dieu. Tant le divorce que les serments étaient autorisés, et ainsi, le niveau que les hommes devaient atteindre n'était pas trop élevé. Les 2 sujets sont placés ici dans une lumière plus vive, et nous voyons qu'une seule chose peut être admise pour rompre le lien du mariage, et aussi que la parole des hommes devrait être si claire et catégorique que recourir à des serments solennels, jurés par telle ou telle chose, est inutile. On ne peut pas faire confiance à un homme qui est obligé d'accompagner ses affirmations par un serment. La loi stipulait encore, pour chaque tort infligé, une rétribution de nature identique. Elle enjoignait ce que nous appellerions le « coup pour coup », comme aussi elle autorisait à haïr son ennemi tout en recommandant d'aimer son prochain. Le Seigneur affirme cela. Il enseigne le support et la grâce qu'il donne, plutôt que l'insistance sur ses droits. Et également l'amour qui bénit et fait du bien à l'ennemi. Tout cela pour que ses disciples soient absolument distincts des pécheurs du monde et se montrent dans le caractère de Dieu lui-même. Dieu leur est présenté non pas comme l'Éternel, le législateur, mais comme votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire qu'il est maintenant révélé sous une lumière nouvelle. Telle est ici la ligne directrice des enseignements du Seigneur. Car si nous le connaissons sous ce jour nouveau, nous découvrons qu'il est caractérisé par la bonté envers les injustes et les méchants, et, dans notre mesure, nous avons à être ce qu'il est. Le ministère de Jésus mettait au jour une nouvelle révélation de Dieu, et celle-ci entraînait un nouveau critère de perfection. Nous devons paraître pratiquement comme les fils de notre Père qui est dans les cieux, car la perfection d'un fils, c'est d'être comme le Père. 8 fois dans ce chapitre, il répète « Moi, je vous dis ». Et 6 fois, cette expression est précédée du mot « mais », pour établir le contraste entre sa déclaration et ce que la loi avait dit précédemment. Nous pouvons bien demander « Qui donc est celui-ci » pour citer la sainte loi de Dieu et affirmer ensuite calmement « Mais moi, je vous dis, ceci et cela ». En fait, il change et élargit la loi, ce que jamais aucun prophète n'avait osé faire. N'est-ce pas une présomption terrible, frôlant le blasphème ? Oui, certes, et une seule explication pourra le blanchir de cette accusation. Mais cette explication est de poids. Nous sommes ici, en présence du vrai législateur, de celui qui a parlé autrefois depuis le Sinaï. Il est venu sur la terre comme homme, Emmanuel. Emmanuel est monté sur une haute montagne, et il s'adresse maintenant non pas à une nation, mais à ses disciples. Il a tous les droits d'élargir ou d'amender sa propre loi.